Phil PM. La voix est libre.
Si on faisait l'indépendance, Monsieur le Président, on paierait pour un État au lieu de payer pour deux États. On paierait pour une bureaucratie au lieu de payer pour deux bureaucraties. Si on était indépendant, on mettrait fin au chevauchement. On sauverait de l'argent. On serait mieux géré. Ça réglerait pas tous les problèmes, Monsieur le Président, l'indépendance. Mais ça nous permettrait d'avoir tous les moyens pour les régler, par exemple.
Voici Luc Lavoie.
Et Bernard, hein? C'était tes belles années, ça, hein? Ça, t'avais de la swing, comme il dit, c'est pas la grosseur de la masse qui compte, c'est le swing qu'il y a dans le manche.
Alors ça, c'était à l'Assemblée nationale, j'étais en commission parlementaire avec un ministre libéral, Alain, j'ai oublié son nom de famille, il était ministre des Finances, ministre junior, et il m'avait dit, de toute façon, vous autres, là, les indépendantistes, là, vous le dites jamais pourquoi, mais Alain Paquette, vous le dites jamais pourquoi il faut faire l'indépendance. J'ai dit, ah ouais? Tu veux savoir pourquoi? On y va.
Là, t'as dit, t'as aligné la série de clichés habituels.
Pendant 10 minutes. Alors, c'est sur YouTube. Vous jugerez si c'est des clichés ou pas. Mais là, la raison pour la... Alors là, tu vas nous présenter ton bon coup.
Mon bon coup, c'est quoi? C'est de constater que les 18-25, il y a deux... C'est basé sur un sondage de Ipsos, non? On utilise deux tranches, les 18-25 ou les 18-34, comme dans un cas comme dans l'autre. Ils veulent rien savoir de l'indépendance du Québec. Si on prend la tranche des 18-34, c'est 7 sur 10 qui ne veulent même pas en entendre parler. Quand on prend les 18-25 ans, ce sont des gens qui, quand tu leur soumets 12 thèmes de campagne électorale, celui qui est le moins intéressant à leurs yeux, c'est l'indépendance du Québec. Alors moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'après avoir gaspillé quasiment deux générations à ergoter, puis à taponner, puis à jaser, puis à zigonner, puis à faire ci, puis à faire ça, soudainement, le nationalisme se retrouve là où il devrait se retrouver, c'est-à-dire à la poubelle. Oh. Je pense que le nationalisme est une forme... très condamnable d'organisation politique. Ce nationalisme qui repose sur l'idée qu'il y a une ethnie, une langue qui est dominante sur un territoire vrai, et que donc les pouvoirs doivent être exercés.
Le nationalisme
par ces
ne repose pas sur l'idée qu'une ethnie.
Oui, elle repose là-dessus, en effet.
Pas du tout. Ça repose sur l'idée qu'une nation doit effectivement s'affirmer.
Mais
nationalisme, c'est plusieurs ethnies. Le Québec est une société multi-ethnique, Luc. Ouais. Le nationalisme de Jean Lesage était multiethnique.
Comme me disait mon ami.
Le nationalisme de Claude Ryan. René Lévesque pratiquait pas un nationalisme ethnique. C'est un nationalisme multiethnique.
Ben justement, René Lévesque a fini par se faire chasser par le parti, justement parce qu'il n'était pas capable de plier devant ces conneries-là. Il n'était pas capable d'embarquer dans ce jeu qui est « mes droits collectifs sont tels ». Souviens-toi, au début, le Parti québécois, là, on a poussé sur René Lévesque pour abolir les écoles anglaises.
Ben oui, puis il a résisté avec raison.
Oui, mais c'est plus ça le nationalisme. D'ailleurs, ça n'a jamais été ça, c'est que Lévesque, il s'est fait prendre les pieds dedans.
Non, la raison pour laquelle il a été expulsé, c'est qu'il a donné une chance au Canada avec le beau risque.
Le nationalisme, pour reprendre une phrase célèbre de Romain Gary, le patriotisme, c'est l'amour des siens, puis le nationalisme, c'est la haine des autres.
Oh.
Et là, ça s'articule autour d'une idée complètement farfelue.
Luc,
il y a deux façons de voir...
Luc, tu réponds jamais à ma question dans cette discussion-là.
Claude Ryan
se disait nationaliste. Est-ce qu'il pratiquait la haine des autres? Robert Bourassa est un nationaliste. Est-ce qu'il pratiquait la haine des autres? Est-ce que René Lévesque, Jean Lesage pratiquait la haine des autres? Moi, je pratique pas la haine des autres. Je me considère comme un nationaliste de gauche. Je crois à l'État. Je crois à la justice sociale.
Le nationalisme est toujours à droite.
Non, c'est pas vrai,
oui,
ça.
C'est toujours
absolument
à droite.
Pas
le
vrai.
Nationalisme est la valeur de droite numéro
ça n'a rien
uno.
À voir. T'es bien plus à droite que moi, je le suis.
Sur
la justice sociale, sur le rôle de l'État pour redistribuer la richesse, sur le rôle de l'État pour protéger l'environnement. Écoute, t'es bien plus à droite que moi. Toi, t'es un gars de droite. Moi, je suis un gars de gauche.
Moi, je suis
sauf
un gars
que
de
je crois
économique.
À l'identité québécoise.
Moi, je suis un gars de droite économique, mais moi, je pense qu'en haut de la pyramide des valeurs politiques se situe l'individu. Toute l'avancée de la civilisation a toujours évolué dans le sens de plus de liberté, plus de droits à l'individu.
L'intérêt collectif, ça n'existe pas, ça,
l'intérêt commun, oui. L'intérêt collectif, non.
Oh!
Absolument pas.
Tu verses dans le sophisme total.
Non, je ne verse pas dans le sophisme du tout.
L'intérêt collectif,
l'intérêt commun, c'est quand un gouvernement fait son travail, il assure la sécurité de son peuple, il assure qu'il a des infrastructures acceptables, il assure que, oui, il y a des systèmes d'éducation acceptables, et surtout, il fait tout ce qu'il peut pour que l'individu prime sur toute autre
mais
considération.
Mais ça, je respecte ça.
Oui.
OK? Mais Moi, pour moi, alors les droits individuels, ils sont très importants. D'ailleurs, ils sont protégés par deux
chartes québécoises. D'après moi, c'est le haut de la pyramide.
Tu as le droit. Et moi, personnellement, je mets en équilibre le droit des personnes avec le droit des collectivités.
Ben
le
moi,
droit,
je ne pense pas qu'il y a telle chose de droit des collectivités. Pense que cette forme de droit-là est une forme de droit qui est exactement le contraire de ce en quoi je crois.
Ben voyons.
Je pense que le Québec est francophone. Oui. Il devrait rester francophone quand au lieu d'ergoter sur des conneries constitutionnelles et tout ça, quand on va se donner un grand défi puis on va dire on va avoir les meilleures écoles au monde. Pas des bonnes écoles, pas des gens qui vont assez bien apprendre le français. Non. On veut parler français, on va le parler correctement, on va l'écrire correctement. C'est notre grand défi. Ensuite de ça, quand on va arriver avec des projets d'infrastructure, on va être aussi efficace. On a interviewé l'autre jour à FM 93 quelqu'un là, qui nous expliquait pourquoi c'est pas possible de faire ici comme on fait en Europe, c'est-à-dire ou même en Chine, de dire le chantier, là, on va le faire marcher 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Non, nous autres au Québec, on peut pas, comprends? La personne me disait, on a des structures. Moi, je pense que le Québec va survivre en français s'il voit à deux choses, la protection des droits des individus puis la prospérité. C'est ça qui va assurer la survie du français.
Mais ça, c'est correct. Tu as le droit d'avoir cette vision libérale au sens philosophique. Mais t'es pas obligé de rejeter le nationalisme comme étant quelque chose de foncièrement mauvais.
C'est foncièrement mauvais.
Ben moi je suis pas
François Mitterrand.
Moi je suis une personne foncièrement mauvaise.
François. Non Bernard, voyons donc.
Alors moi je suis un nationaliste mais progressiste de gauche.
Je pense que le nationalisme et la gauche, ceci est incompatible.
Écoute-moi là.
Et je voudrais aussi citer Mitterrand.
Mitterrand.
Oui, c'est pas important, Mitterrand. Nationalisme, c'est la
c'est
guerre.
C'est pas le bon Dieu.
Romain Gary puis Mitterrand, c'est pas pire.
Puis moi, je te donne Lesage, Lévesque, Ryan puis Bourassa. C'est pas si pire. C'était des nationalistes, fiers nationalistes.
Le Québec a perdu un temps fou. Au lieu d'évoluer vers la prospérité, vers le modernisme, ce qu'on a fait ici au Québec, c'est qu'à un moment donné, on s'est mis à ergoter là-dedans, puis là, la formule d'amendement, ceci, puis mes droits collectifs, puis mon butin, c'était Duplessis. Non, je ne marche pas là-dedans, et c'est pourquoi bonne nouvelle du jour, c'est d'apprendre que notre jeunesse, je sais pas à propos de tes fils, moi, je peux te dire que mes filles sont plutôt en ligne.
Moi, j'ai deux fils puis une fille.
Oui.
Et ce sont des fiers Québécois, mais...
Elle aussi,
mes filles. Très ouverts sur le monde, très internationalistes, qui parlent trois langues pour deux d'entre eux. Je me suis assuré qu'ils parlent pas juste deux, trois langues.
Je le sais,
Bernard. Et ce sont de fiers
c'est
Québécois.
C'est vrai pour moi aussi. Bon. Puis je suis un fier Québécois en passant.
Ben, toi aussi, tu l'es certain.
Certain que je suis fier de ma société.
La différence entre toi et moi, c'est ceci. C'est que moi, j'accepte.
Moi, j'accepte pas le rôle de la victime.
Moi, j'accepte.
Le rôle de la victime qu'on a voulu m'assigner dans le discours nationaliste,
je ne suis pas une victime. Moi, j'accepte et je reconnais la légitimité de ta vision. Et je te dis, Luc, je ne suis pas d'accord, mais c'est légitime ce que tu penses, puis je te respecte. Mais toi, tu ne me donnes pas le même respect parce que
Je te respecte, Bernard, tu sais très bien que je te respecte.
Tu dis qu'en tant que nationaliste, je suis quelqu'un de foncièrement... intolérant.
À droite.
Non,
droite.
Tu vas plus que ça.
Tu es la droite.
Tu me dis, je suis intolérant et xénophobe foncièrement parce que je suis nationaliste.
J'ai pas employé aucun de ces deux mots-là
Tu dis que le nationalisme est foncièrement raciste.
J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il est ethnocentrique.
OK. Donc, moi, je suis ethnocentrique en tant que nationaliste.
Si tu crois qu'il y a un droit collectif, oui. C'est parce que tu penses que les Québécois de souche doivent occuper les postes puis faire la job.
Ça n'a rien à voir.
Ben oui, ça a tout
pour
à
moi,
voir.
Alors, pour toi, le nationalisme est par définition ethnique.
Ethnique, culturel. Linguistique, c'est
alors
tout.
Que moi, pour moi, le nationalisme, c'est un nationalisme multi-ethnique avec sa propre culture.
As-tu remarqué qu'il n'y a personne dans les ethnies autres que le Québécois de souche qui vote pour ça?
Ça, c'est pas vrai.
Ben oui, c'est vrai.
C'est pas vrai.
Ben oui, c'est vrai.
Non.
Ben oui, c'est vrai.
À tous les matins, 3%, je prends...
3-4%?
Plus que ça, quand même. À tous les matins, je prends un taxi.
5%,
à tous les matins, je prends un taxi, OK?
Oui.
Puis je suis avec des Québécois de toutes les origines. Un matin, c'est un Québécois d'origine algérienne que j'ai. Le lendemain, c'est un Québécois d'origine marocaine. Des fois, c'est un Québécois d'origine haïtienne. Des fois, c'est un Québécois d'origine française, canadienne, française. Et puis quand je leur parle, ces gens-là, là, ces Québécois-là, là, ils se considèrent comme des Québécois. Ils sont des citoyens québécois. Ils sont fiers bien. De me parler de politique, mais ils considèrent qu'ils font partie de la nation québécoise, même s'ils
non,
sont pas d'origine.
Non, ça non.
Ben ils me le
mais
disent.
Pourquoi ils votent
je leur
pas
demande,
pour ça?
Luc. Je leur demande.
Mais la nation québécoise.
Attends un peu. Il y en a qui sont pas d'accord avec la souveraineté là-dedans. Ah, ça c'est vrai. Ben non, mais faut faire une distinction. Bourassa était pas un souverainiste, mais c'était un nationaliste. Ryan n'était pas un souverainiste, mais c'était un nationaliste. Et ces personnes-là, ces néo-québécois avec lesquels je discute le matin, il y en a qui sont indépendantistes. Il y en a d'autres qui me disent, Monsieur Drainville.
Je vais montrer à répétition que le nationalisme comme philosophie politique est une philosophie politique qui tourne à la banqueroute très rapidement.
Au Québec, ça a été émancipateur, Luc. Les 50 dernières années, la force, l'énergie qui a traversé l'histoire du Québec au cours des 50 dernières années, c'est le nationalisme. Pour certains, c'était un nationalisme.
Non, c'est le modernisme.
C'est le modernisme. D'appartenance fédérale, comme Ryan et Bourassa. Pour d'autres, leur nationalisme s'exprimait dans l'indépendance.
Non, pas du nationalisme, c'était de la modernisation d'une société qui vivait dans le passé.
C'était un nationalisme modernisateur.
Ils avaient un Maurice Duplessis qui n'était pas aussi stupide qu'on veut le dépeindre aujourd'hui.
Je suis d'accord avec toi.
Mais néanmoins, qui était quelqu'un qui disait « Bon, on s'en va à Ottawa chez notre butin, là. Nous, les Canadiens français, là. Ta-da-da-da-da. » Je n'embarque pas là-dedans. C'est quand on s'est sorti de ce discours passéiste qu'on a commencé à se moderniser. Puis là, tout à coup, whoops, les nationalistes se sont emparés de ça. Écoute, le ministère de l'Éducation, c'était pas un geste nationaliste, c'était un geste de modernisation.
Ben, c'est un geste d'émancipation. C'est un geste de libération.
Voilà.
C'était, oui, effectivement, un geste qui s'inscrivait dans un programme nationaliste.
Non, je ne suis pas
c'était
d'accord
le programme
avec ça.
De Jean Lesage,
non.
De faire de l'État québécois un État beaucoup plus fort, un État
beaucoup mieux structuré, beaucoup mieux moderne,
avec un vrai système d'éducation, avec un vrai système d'éducation,
avec une fonction publique digne de ce nom.
Ben oui.
Et ça, c'était pas
c'était
du nationalisme.
Un nationalisme
c'était la modernisation. C'était la modernisation d'un État. Moi, je rejette le nationalisme et je vais me battre. Toute ma vie pour les droits des individus.
Et moi aussi.
Bon, mais tant mieux, Bernard.
Et moi aussi.
C'est pour ça qu'on finit par bien s'entendre en bout de ligne.
Mais je pense
regardez,
que...
Regardez, Bernard, il n'est pas content, là, mesdames et messieurs. Ceux qui nous voient, là, regardez, Bernard. Là. Hop, là, il fait un petit sourire.
Il faut trouver l'équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt commun. L'intérêt individuel, c'est différent de l'intérêt collectif,
en passant. C'est
la même affaire. Non. Arrête, là, tu joues avec les mots.
Ah oui, puis toi,
Je vais le répéter. Il faut trouver le bon équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif.
Mais celui qui doit primer, c'est l'individu.
C'est ce que
point
tu dis.
À la ligne.
C'est ce que tu dis.
Oui.
Moi, je dis qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux.
Moi, je dis qu'il faut d'abord voir la protection des droits des individus contre l'État omnipuissant.
L'un exclut pas l'autre.
Ben là, c'est ce que tu dis.
C'est
moi,
ce que je dis
le contraire.
C'est
parfait. C'est pour ça qu'on a des beaux débats, Bernard.
Et je suis d'accord, Luc Lavoie.
Regardez, mesdames et messieurs, regardez, Bernard, il souriant soudainement.
Ben oui, regardez, on met des belles dents, notre OK, on s'arrête. Vous avez vu qu'on n'a pas pris d'appel, mais là, on était enflammés. Là. Mais je vais te dire une affaire. On a reçu des textos anti-pépère. Puis s'il y avait un vote, tu perds ton vote, la voix.
Ah!
Tu perds ton vote.
Parce que t'as pas tenté ta gang, comme
tu
d'habitude.
Tu perds ton vote, la voix. Dans un instant, le mauvais coup de Luc Lavoie. Bon, maintenant, c'est le coup, le mauvais coup, la claque sur la margoulette de Luc Lavoie.
Eh bien, moi, je trouve que le syndicat des employés de TVA et la FTQ, parce que même son président, Daniel Boyer, s'est prononcé, n'ont pas d'affaire à se mêler de la lutte démocratique qui est en train de se passer au Québec.
S'il y
a un conflit de travail à TVA, ça ne veut pas dire que l'antenne disparaît, puis ça ne veut pas dire que tu peux faire chanter les leaders, leur dire « tu ne peux pas aller là parce que tu comprends ». Écoute, ils ont sorti une affaire aujourd'hui,
non,
le
mais
syndicat,
s'il y a une ligne de piquetage, s'il y a une ligne de piquetage, tu ne proposes pas que les chefs traversent la ligne de piquetage,
absolument,
toujours?
Pourquoi pas?
Ben parce que ça se fait pas.
Alors pourquoi ça se fait pas? Qui a décidé ça, là?
Ça se fait pas.
Qui a décidé ça?
Un groupe de travailleurs qui installe une ligne de piquetage devant une entreprise, ça s'appelle un SCAB, mon ami.
Quelqu'un qui traverse une ligne de piquetage, là? C'est pas un SCAB, quelqu'un qui traverse une ligne de piquetage.
Quelqu'un qui va aller traverser
la ligne. Un travailleur de remplacement, c'est un SCAB.
Ben pour ça, il faut qu'il traverse la ligne.
Ben oui.
Ben c'est ça. Alors quelqu'un qui traverse la ligne puis qui va remplacer celui qui est sur la ligne, c'est un SCAB.
Non, c'est pas du tout ça. T'es chef politique, toi. Hein? Puis tu vas à TVA parce qu'il y a un auditoire qui va être encore là. puis tu veux aller débattre des sujets démocratiques, c'est pas le syndicat qui devrait se mêler de ça, qui fasse leur rapport de force avec l'employeur. Qu'est-ce que ça a à voir avec le débat politique? Qu'est-ce que ça a à voir avec monsieur et madame tout le monde? Oubliez pas là, qu'on est devant un cas de relation de travail où c'est toujours la même chose. Ça concerne pas le salaire, ça concerne pas le fonds de pension, ça concerne le transfert et l'abolition de postes vers des filiales de TVA qui ne sont pas syndiquées. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, comme d'habitude, le syndicat, qui est une business comme les autres, veut pas perdre de membres. Alors, ça a pas d'affaire. Écoute, ils nous en sortent des vertes.
Là, juste pour que les gens nous suivent, là, tu fais référence au fait que le syndicat qui est en négociation, le syndicat de TVA qui est en négociation actuellement avec la direction de TVA, a dit aux chefs politiques, si on est en
conflit de travail,
en moyen de pression
ou en conflit de travail,
on veut pas que vous veniez au débat, le fameux débat des
ou
chefs,
ou que vous accordiez des entrevues à des journalistes de TVA.
Ouais.
Alors ça, tu vois, dans les journalistes de TVA,
mais si j'ai bien compris, là, il faut qu'il y ait soit une grève ou un lock-out de déclencher pour que ça s'applique, ça.
C'est ce que je comprends aussi.
OK, donc tu es en train de présumer qu'il va y avoir une grève ou un lock-out
chez TVA.
Regarde,
je veux dire, prenons l'exemple suivant. Une des grandes vedettes de l'information et des affaires publiques chez TVA, il s'appelle Mario Dumont.
Oui.
Mario Dumont, il n'est pas syndiqué.
D'accord.
OK? Et on pourrait en nommer plusieurs autres comme ça.
Oui.
Alors, eux, ils ont une obligation de rentrer au travail, puis ce sont des journalistes tout aussi respectables que les autres.
Oui, mais si je te parle
la
pas
seule de... règle à l'heure actuelle dans la convention collective, qui ne s'appliquerait pas en cas de conflit de travail, parce que les conventions collectives tombent quand il y a une grève ou un lock-out, c'est la règle qui dit un Mario Dumont, ou toi et moi, quand nous étions là aussi, on n'avait pas le droit d'aller faire un reportage. On pouvait faire de l'analyse. Mais c'est sûr qu'en conflit de travail, Mario Dumont demeure un analyste, demeure un commentateur très respecté, qui fait des entrevues, puis le syndicat n'a pas d'affaire à dire « j'agis comme censeur, et puis M. Dumont, il ne devrait pas faire d'entrevue, vous ne devriez pas aller là. » Ça n'a pas de bon sens, cette logique syndicale, je ne la marche pas.
Je te parle d'un chef politique ou d'une chef politique, moi. Toi, tu dis un chef de partis politiques, que ce soit Lisée, Couillard, que ce soit Legault ou Mass, ou Massé, dis-je, s'il y a une ligne de piquetage, il devrait la traverser pour aller donner l'entrevue.
Mais d'abord, arrêtons cette histoire de ligne de piquetage, Bernard. Soyons clairs, là. Une ligne de piquetage qui bloque l'entrée d'un lieu de travail il va avoir une injonction, puis ils vont y mettre l'autre bord de la rue. Alors, tu traverses rien. C'est comme un concept, là, un peu comme de la boucane, là, tu comprends? Il n'y a pas de ligne de piquetage, elle va être l'autre bord de la rue.
OK, mais il y en a une pareille.
Ah oui, quand tu vois ça, l'autre
bord de la rue. Non, mais t'es un peu, là.
Non, mais je marche pas là-dedans.
T'as des travailleurs d'une entreprise, qui se font sacrer dehors en lock-out ou qui décident d'aller en grève.
Oui.
OK? T'es un chef de parti politique. Mm-hmm. Tu vas pas traverser la ligne, qu'elle soit symbolique ou pas. Tu vas pas dans une.
Pourquoi
tu
ferais pas ça?
Ben, parce que ça se fait pas, Christophe Colomb.
Ah,
c'est
oui,
une façon
ça?
De. Ben, tu leur enlèves leur rapport de force. T'es en train de prendre position dans le conflit.
Non, tu prends pas position dans
le
conflit.
Je pense que oui, moi.
Ben non, c'est le contraire qui te fait prendre position dans le conflit. Pourquoi tu traverserais pas, comme tu dis, pour employer ton expression, la ligne de piquetage? Pourquoi, donc, tu prends position, tu dis l'employeur a tort? C'est ça que tu dis, là. C'est ça que tu dis.
Non, je dis
tu
pas ça.
Tu penses que l'employeur a tort?
Non, je dis pas ça.
Je vais te dire une chose. J'étais
vice-président. Il faut les laisser négocier.
J'étais vice-président exécutif de Québec.
Mais pas prendre parti.
J'étais vice-président exécutif de Québécois quand il y a eu les conflits de travail au Journal de Montréal pour le Journal de Québec. Je te dis aujourd'hui, sans crainte de me tromper, que n'eût été de ces deux conflits de travail au Journal de Québec et au Journal de Montréal, les deux seraient fermés aujourd'hui. C'est vrai.
Est-ce qu'il faut vraiment passer par cette espèce de moment destroy, là? Est-ce qu'il faut vraiment passer
Les syndicats ne veulent pas discuter.
Oh, ben là, écoute, sérieusement,
on veut protéger des planchers d'emploi. On veut
la responsabilité du conflit est seulement syndicale, voyons donc. Dans un gros conflit de travail comme celui qu'il y a eu au Journal de Montréal et au Journal de Québec, moi, je pense que c'est une responsabilité partagée. Je pense que peut-être les syndicats ont leur part de tort, mais la direction a sa part de tort.
Le syndicat refusait de voir les changements technologiques qui allaient mener les journaux imprimés à leur perte. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est la presse s'est transformée en une espèce de patente à gosse appelée un OBSL. Puis vous avez Le Devoir qui est juste sur le bord de s'effondrer lui aussi. Vous avez des très grands journaux comme le Toronto Star qui sont au bord de la faillite. Vous avez toute la chaîne des journaux Post Media qui comprend la Gazette ici à Montréal, puis le National Post et de nombreux autres qui sont au bord de la faillite. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour survivre un peu plus longtemps avec cette forme de médias-là? C'était de réduire les coûts fou, puis de mettre fin au cloisonnement qui était en place à une époque où ces journaux-là régnaient en roi et maître sur l'information. Et ça, il fallait s'en rendre compte. Et quand tu veux pas t'en rendre compte, puis tu boques, puis tu dis j'ai un gros fond de grève, puis je vais garder mon monde en grève aussi longtemps qu'il le faut. Mais Québécois, dans ce temps-là, il avait fait le calcul.
Okay, mais
vous
là,
avez un fond de grève qui est valable pour 15 mois.
Okay.
Dans 15 mois, vous reviendrez me voir.
Donc, Luc, là, t'es en train de nous dire, dans le fond, là, ce qui va arriver avec TVA, c'est ce qui est arrivé au Journal de Montréal pour le Journal de Québec.
Je vois ça se développer dans ce sens-là.
Puis tu penses que c'est positif?
Ben, je ne pense pas que c'est positif. Je pense que c'est irresponsable de la part du syndicat. Personne ne leur demande des réductions de salaire ici. Personne ne leur demande des réductions au fonds de pension. Ce qu'on leur demande au syndicat, c'est de dire, regarde, les cloisonnements puis les bebelles, on n'en veut plus. Point. OK? Parce qu'on ne peut plus opérer comme ça. Avant, ça prenait un caméraman, un preneur de son, un ci, un ça, un ça. Les équipements permettent maintenant, par la robotisation, de ne plus avoir recours à ça. Avec tout ce qui ressemble à plancher d'emploi puis tout ça, c'est un empêchement au développement de ces médias-là.
En tout cas, moi, je te le dis, là, les chefs de partis politiques, là, s'il y a une ligne de piquetage, là, s'ils la traversent, ils prennent, dans les faits, là, ils prennent position dans le conflit, puis ils donnent du rapport de force au patron, puis en enlève au travailleurs, aux employés de la boîte.
Moi, je te dis,
ça, c'est ma vision, là, mais je suis convaincu de ça.
Moi, je te dis le contraire.
Tu brises le rapport
chef,
de force.
Si un chef de parti choisit de respecter la demande syndicale de pas se présenter là, là, ils viennent de prendre parti dans un conflit en disant « le syndicat a raison ». Or, le syndicat est loin d'avoir toujours raison. Regarde ça, de la SAQ.
Ça, c'est vrai. Ça.
Regarde
la
Société canadienne des postes.
Je ne prends pas pour acquis que le syndicat a toujours raison.
Ben non, ben alors pourquoi tu veux qu'il prenne position pour le syndicat?
Mais une fois que tu as une ligne de piquetage, tu la respectes.
Non.
Ça, c'est un principe avec lequel j'ai été élevé.
Ben ouais.
Puis je vais mourir avec.
Ben
une ligne de piquetage, tu respectes ça.
Ben non, mais c'est pas mon
sinon, cas. C'est comme ça que tu arrives avec de la violence puis des affrontements. Quand tu respectes pas une ligne de piquetage, tu calisses la marde. C'est ça qui arrive.
C'est pas vrai du tout.
C'est ça qui arrive. C'est comme ça que c'est arrivé
parce que ça se fait pas avec de la violence.
C'est moi, je viens de sacrer,
regarde là-bas.
Ouais, mais d'ailleurs, je veux vous dire aux gens qui nous écoutent, on a un problème de son présentement. We have a problem here, ici. OK, avec le Facebook Live, j'avais le goût de dire Houston, mais là, c'est Montréal. We have a problem. On s'excuse, on espère le régler pour la prochaine
fois. Tu t'en sors à pas cher parce que les gens auraient peut-être aimé ça, entendre ce que tu avais à dire, Bernard.
Oui, j'espère qu'ils auraient aimé ça. Je suis sûr qu'ils auraient beaucoup aimé ça. Luc Lavoie, à demain.